Géopolitique, Ludovic Duno.
Bonjour à tous. Préserver et s'intéresser au patrimoine culturel, c'est porter une attention aux monuments, aux objets d'art et aux pratiques et traditions culturelles qui reflètent une identité d'une société ou d'une communauté humaine. Ce patrimoine occupe une partie de l'actualité comme un nouvel enjeu géopolitique et qui plus est, une géopolitique du conflit. Depuis mi-juin, par exemple, en écho à la mort de George Floyd aux États-Unis, un large mouvement d'Africains-Américains et antiracistes revendique une autre vision de l'histoire, faisant une place au destin noir en déboulonnant des statues d'esclavagistes. L'onde de choc de ces déboulonnages de statues a entre autres touché la Grande-Bretagne et dans une moindre mesure des revendications similaires agitent la société française. Autre actualité, le 10 juin dernier, la décision du président Erdogan en Turquie de rendre Sainte-Sophie au culte musulman, monument phare d'abord de la chrétienté, avant de devenir une mosquée, puis d'être totalement désacralisée de tout culte, est aussi là un acte politique qui utilise le patrimoine pour imposer un message et une vision de l'histoire. Longtemps synonyme de rapprochement entre les peuples, de valorisation des identités, le patrimoine culturel est devenu, en ce début du XXIe siècle, le reflet des désordres de notre temps. D'un coup, nous ne le percevons plus de la même façon. Il devient une arme ou une cible pour des revendications autrefois portées par d'autres biais. La question des restitutions d'œuvres d'art aux pays africains, colonisés au XIXe et XXe siècle, est une autre marque de ces conflits qui se cristallisent autour du patrimoine. Alors, pour nous éclairer sur ce que révèle ce patrimoine culturel en conflit dans ses aspects les plus divers et pourquoi sa mise en avant est devenue un phénomène important dans la compréhension du monde, Robert Belot est avec nous depuis le studio de France Bleu Belfort. Bonjour Robert Belot.
Bonjour.
Alors vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne où vous tenez la chaire européenne EPOPA, acronyme pour Europe politique et patrimoine, patrimoine au pluriel. Vous y dirigez deux masters dédiés au patrimoine culturel, dont un master Erasmus Mundus, financé par la Commission européenne. Par ailleurs, vous avez dirigé en 2017 un numéro de la revue canadienne Ethnologie intitulé « Géopolitique, conflit et patrimoine ». Donc, vous êtes l'homme de la situation pour nous aujourd'hui. On en est sûr, nous. En juin dernier, un vaste mouvement, donc je le disais, antiraciste international, a pris des statuts comme cible de leurs revendications, estimant ce patrimoine moralement incorrect. On rappelle quelques faits, par exemple à Richmond en Virginie dans le sud des États-Unis, c'est la statue de Jefferson Davis, le président des États confédérés, donc pro-esclavage dans les années 1860 qui a été déboulonnée. À Bristol au Royaume-Uni, c'est la statue d'un marchand du XVIIe siècle, entre autres un marchand d'esclaves qui a été jeté dans le fleuve. En Belgique, la statue du roi Léopold II a été retirée de son piédestal après avoir été recouverte de peinture rouge et partiellement incendiée. Bon, je pourrais continuer longtemps avec des exemples à Lisbonne, en Nouvelle-Zélande, à Londres. Ce phénomène, pourtant, de remise en question de la manière dont l'histoire est écrite dans l'espace public n'est pas nouveau, Robert Belot.
Non, c'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est la diffusion médiatique et le fait que le patrimoine n'est plus, comme on le disait il y a très longtemps, l'art de commoder les restes, mais qu'il est au cœur de nos représentations. Et d'ailleurs, c'est pour ça que deux masters ont été créés sur ce sujet, parce qu'il est temps de prendre le patrimoine au sérieux, vous voyez. Et votre émission, elle participe de cette réflexion, en fait, qu'on doit avoir de manière détachée sur un phénomène qui nous concerne tous et qui se pose aujourd'hui à l'échelle mondiale. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, on a eu cette idée que le patrimoine avait des vertus de réconciliation, et que, en définitive, c'était une espèce de, on pouvait avoir une espèce d'effet analgésique sur les sociétés. Il renforçait la cohésion sociale, voire internationale, et c'était le projet de l'ONU, effectivement. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est aussi un facteur de division, qu'il peut entretenir des conflictualités, et que le patrimoine, c'est pas aussi simple qu'on l'imagine.
Mais alors, quand on prend l'exemple des statues, là, comme je le disais, nous, on est sur notre présent, notre actualité du moment, mais on peut se rappeler que à la chute du mur de Berlin, on en déboulonnait déjà des statues. On s'en prenait déjà au patrimoine.
Bien sûr. Alors, le patrimoine a toujours été un enjeu sociétal, politique et géopolitique. Alors, on le redécouvre aujourd'hui, mais on pourrait parler des Romains qui voulaient implanter des monuments en Palestine juive et que les Juifs refusaient, rejetaient. Vous voyez, c'est une très longue histoire. De tout temps, les vainqueurs, puisque ce sont surtout les vainqueurs qui ont construit le récit dans l'espace public, hein, le récit monumental. Alors forcément, ils laissaient de côté tout un pan de la société, les vaincus en particulier. Mais prenez le cas de la Deuxième Guerre mondiale, la France sous l'occupation. Les Allemands ont largement détruits, pillés, vandalisés. Les monuments de l'histoire de la République française. Ensuite, Pétain a développé sa monumentalité et la République réinstallée a éliminé les traces du proche passé vichiste. Vous voyez, donc je dirais que, en fait, le patrimoine, c'est un récit qui se déploie dans l'espace public. Je dirais que la ville, c'est pas simplement des bâtiments, un flux de population, c'est aussi un récit à partir des monuments, des stèles, des plaques, etc. Et c'est pas éternel. C'est en évolution constante et donc il faut se déprendre de l'idée que, eh bien, on va à travers le monument figer une fois pour toutes l'histoire. L'histoire est une construction, une réécriture permanente et donc les signes extérieurs de ce rapport à l'histoire que sont les monuments, les stèles, les plaques, eh bien, participent de cette réécriture permanente.
Ou les statues, par exemple, comme on le disait, parce qu'on s'en prend à des images fortes. C'est ça le principe. C'est parce que ça renvoie chaque citoyen à des émotions ou à des images fortes. C'est pour ça qu'on s'en prend au patrimoine ?
Oui, parce que c'est le symbole extérieur, le signe extérieur de ce qu'on veut dire de soi-même. Et donc, ça nous renvoie à la question, qu'est-ce que le patrimoine ?
Le patrimoine, c'est un miroir, alors ?
Alors, c'est une forme de miroir, mais ce n'est pas l'histoire non plus. Ce n'est pas la mémoire qui est vécue de manière affective, la mémoire familiale, la mémoire individuelle, etc. Non, le patrimoine, je dirais, c'est un acte collectif, une prise de position sur l'histoire. Et en une formule, si vous voulez, très simple, je dirais que le patrimoine, c'est décider aujourd'hui ce que demain devra se souvenir du passé. Que ce soit un événement, un objet, une figure, un homme, une tradition, etc. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est un récit, une construction, une distinction. On va distinguer tel personnage, on va distinguer tel événement. Eh bien, comme tout récit, ça évolue en fonction des enjeux du présent, en fonction des connaissances du présent. Prenons le cas de la colonisation, effectivement, le rapport à la colonisation n'est pas le même aujourd'hui qu'il y a deux siècles, hein, bien entendu. Et donc, si on veut comprendre ce que c'est que le patrimoine et l'émotion que ça suscite, hein, et les polémiques, voire les conflits que ça suscite, il faut imaginer que ce n'est pas une donnée en soi. Et je ferai référence à un sociologue, M. Davalon, qui a inventé le concept de filiation inversée.
C'est-à-dire ?
La filiation inversée, c'est le contraire d'une filiation normale, d'héritage normal. C'est pour ça qu'en France, on préfère le mot patrimoine au mot heritage. Heritage,
en anglais. Hein.
En anglais, heritage.
Quel synonyme ?
Quel synonyme ? Mais ce n'est pas tout à fait un synonyme. Parce que l'héritage, c'est, bah, vous allez hériter de votre père, par exemple, d'une maison, d'un nom, d'un patrimoine génétique, etc. La filiation inversée, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir votre héritage. On se choisit ses propres ancêtres. Donc c'est pas une transmission linéaire, vous voyez, du passé vers le présent pour l'avenir. C'est nous qui choisissons aujourd'hui. Donc forcément, je dirais que c'est politique.
Oui, et dans le cas des statues dont on parlait, on a imposé un héritage à une partie de la population américaine qui ne se reconnaît pas dans cet héritage puisqu'elle a souffert et elle continue de souffrir de l'héritage qu'on lui impose.
Exactement. Alors prenons le cas que vous évoquez, la question des monuments confédérés. La question que je me suis posée, c'est pourquoi ces monuments ont été créés et plutôt quand est-ce qu'ils ont été érigés ? Eh bien, figurez-vous qu'ils n'ont pas été érigés au lendemain de la guerre civile, en 1865, 66, 67, 60... non, bien après, quand les lois racistes et de discrimination, plus exactement, se développaient pour, justement, contrer l'abolition de l'esclavage. Donc, il y a bien, au départ, un projet idéologique, et pas que historique. Il ne s'agissait pas, finalement, de rendre hommage aux soldats, que d'imposer une vision du Sud, qui était une vision suprémaciste blanche, en définitive, vous voyez. Et le général Lee, il représente justement ce Sud hostile au Nord, anti-esclavagiste. Et donc, pourquoi ces monuments suscitent une telle animosité qui recoupe les communautés ? C'est pas que la communauté noire d'ailleurs. Aujourd'hui, le phénomène nouveau, c'est que c'est les Blancs, les Métis et les Noirs qui se révoltent contre une certaine vision de l'histoire. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une vision de l'histoire. C'est une vision du Sud contre le Nord. Et imaginez qu'il y a 1500 monuments consacrés aux confédérés aujourd'hui. Donc ces monuments ont été érigés bien après la guerre civile, dans une perspective politique, surtout fin 19e, début 20e, puis avec un revival dans les années 50. Vous voyez. Donc le but de ces monuments, c'était pas de célébrer le passé. C'était plutôt, je pense, bah, les historiens le pensent, les historiens américains notamment, de promouvoir une suprématie blanche, en fait. Vous voyez. Et prenez le cas, ça me concerne, puisque je suis universitaire, je vais souvent aux États-Unis. Dans l'université de Caroline du Nord, où je suis allé, il y avait un monument confédéré qui était posé à l'entrée de l'université. Il était appelé communément Silencieux Sam. C'est une statue en bronze d'un confédéré soldat, hein, réalisé par un sculpteur canadien. Eh bien, figurez-vous qu'il a été inauguré en 1913, qu'il a été régulièrement vandalisé et qu'il était renversé en 2018, parce que l'air du temps faisait que ce genre de symbole n'était plus tolérable. Voyez. Donc la question, c'est, le patrimoine nous parle de l'histoire ou nous parle d'une certaine vision de l'histoire qui poursuit des buts particuliers, idéologiques, politiques, racistes en l'occurrence.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Robert Belot, vous êtes universitaire spécialiste du patrimoine culturel. Avant de continuer à explorer les relations du patrimoine et des conflits en tout genre, il faut peut-être revenir sur la manière dont le patrimoine culturel a été mis en orbite internationale dans les années 70 par l'ONU grâce à son agence spécialisée dans la culture et l'éducation qu'est l'UNESCO. Alors le patrimoine est un concept neuf, c'est peut-être bien de repartir à son origine pour mieux comprendre pourquoi et pour voir comment les choses évoluent en ce début de 21e siècle. Dans les années 70, l'UNESCO, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut mettre en place avec ce patrimoine et finalement, à l'époque, de manière positive?
Alors, le patrimoine a toujours existé en tant que tel, en tant que récit instituant, au niveau des nations en particulier. Et d'ailleurs, on pourrait même dire que c'était un instrument parfois du nationalisme. Hein. Et c'est l'abbé Grégoire, d'ailleurs le fameux abbé Grégoire, qui invente la notion de patrimoine et de protection du patrimoine pendant la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle. Mais là, c'est une vision extrêmement positiviste, hein, comme vous le disiez. C'est-à-dire le patrimoine comme éducateur de la société, en définitive. Hein. Il a créé le musée des arts et métiers, etc. Et puis arrive l'ONU, pensée donc dès 41, en pleine guerre mondiale en fait. Et on s'est dit à ce moment-là que oui, il fallait faire quelque chose, que cette deuxième guerre mondiale, c'était pas simplement une guerre classique d'État à État, mais que c'est une guerre des valeurs, une guerre de la démocratie contre le fascisme, et que heureusement la démocratie l'a emporté. Et l'idée c'était que la source du fascisme, du nazisme, c'était l'hypernationalisme. Et qu'il y avait peut-être d'autres modes de gouvernance des hommes et des États qui pourraient permettre d'éviter ce genre de catastrophe. Et donc, on a imaginé une communauté internationale, entre guillemets. Alors, il y a des débats pour savoir si ça existe vraiment, si c'est possible ou pas. Mais néanmoins, l'UNESCO a été chargée de développer l'éducation, la science et la culture. Parce que le nazisme, c'est justement le contraire de l'éducation. C'est au contraire une politique culturicide. Et on pensait que par la culture, eh bien, on pourrait éduquer les hommes, on pourrait les rapprocher, justement.
D'où l'émergence de ce fameux label patrimoine mondial, créé par l'UNESCO, dans une vision très universaliste, pour faire de ce patrimoine bâti par l'homme, de toutes ces belles réalisations, en faire quelque chose de mondial et d'universel.
Exactement.
Aimons-nous les uns les autres.
Ou en tous les cas, transcendons les frontières, parce qu'il y a des biens qui appartiennent à l'humanité. Alors, c'est pas sans lien avec le crime contre l'humanité qu'a représenté justement l'extermination des Juifs. Mmh. C'est-à-dire qu'un Juif qui est assassiné, c'est pas qu'un Juif en tant que tel. Non, c'est l'humanité qu'on tue d'une certaine manière et nous sommes tous impliqués, que l'on soit Juif ou pas Juif. C'est ça le message de ceux qui ont combattu le nazisme, je pense aux résistants, etc. Donc oui, vous avez raison, c'est tout à fait ça. Vous savez que pour qu'une idée naisse, il faut parfois des facteurs conjoncturels. Le facteur conjoncturel, c'était le sauvetage d'Abou Simbel en Égypte, hein, suite à la construction du barrage d'Aswan en 1964. On dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ce témoignage extraordinaire de l'art égyptien antique, ça va disparaître, on va le reconstituer en définitive. Et ça, à partir de ce moment-là, où on considère que ça coûte tellement cher, il faut des spécialistes du monde entier, on va en faire un événement mondial. Et c'est une expérience qui a été réussie, donc, et qui a donné l'idée, justement, de créer cette fameuse convention, hein, concernant donc la protection du patrimoine mondial en 1972.
Et ça a eu un très grand succès très vite. Aujourd'hui,
ah oui,
des centaines de monuments ou de paysages sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais on en voit aussi les limites. Là, avec la resacralisation de Sainte-Sophie, le communiqué de l'UNESCO ne fait que dire on déplore les faits. fait, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On voit bien qu'il manque peut-être de pouvoir pour agir, et il rappelle encore que ces monuments sont des monuments universels où toutes les identités doivent pouvoir s'inscrire. Mais on voit mine de rien que malgré un communiqué, rien n'est fait derrière, parce que ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre.
Oui, alors il y a deux paradoxes, si vous voulez, qu'on pourrait expliquer un petit peu. C'est d'une part, on veut faire de l'universel avec de l'exceptionnel. C'est un peu paradoxal. Et au départ, c'était surtout célébrer le génie de l'homme. Et en même temps, le deuxième paradoxe, c'est que cette communauté internationale, et j'aimerais insister là-dessus parce que c'est pas connu, l'universalisme de l'UNESCO était réduit à l'Occident. Il y avait un occidentalocentrisme. Il est lié à quoi ? Il est lié à la guerre froide. 70, c'est la guerre froide. Et donc, c'est pour ça, en partie, hein, pas que, mais en partie, 47% des biens aujourd'hui inscrits au patrimoine mondial sont de la sphère européenne et nord-américaine, vous voyez. Et il y a eu un changement considérable en 1990. Prenez le cas du centre historique de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, créé au début du 18e, donc c'est quand même un très vieux patrimoine. Pourquoi on a attendu 1990? Bah, il s'est passé la chute de l'Empire soviétique juste avant. Pourquoi le premier site inscrit patrimoine mondial du Portugal, reconnu par l'UNESCO, date de 1983? Parce que c'est l'avènement de la démocratie. L'Espagne, c'est un an après. Vous voyez, après Franco et l'installation de la démocratie. Pourquoi la Grande Muraille de Chine est inscrite seulement en 1987? Parce qu'on est dans une phase d'ouverture politique du gouvernement chinois. Donc ce patrimoine mondial qui représente l'humanité, il représentait une certaine partie de l'humanité. Et donc j'aimerais dire, si vous voulez, qu'il y a quand même une logique idéologique implicite qui est même peut-être même pas conscientisée par les acteurs, ceux qui fabriquent l'inscription au patrimoine mondial. Mais c'est sous-jacent. Mais aujourd'hui, avec la fin de la guerre froide, on peut penser que l'universalisme peut être atteint. Et ce qui est intéressant aussi de noter peut-être, c'est que au départ, c'était quand même assez circonscrit à la culture chrétienne. Prenez par exemple le cas de la France. Les premiers sites classés en France sont de 1979, vous voyez, un an après le premier classement. Eh bien, c'est quoi? C'est Vézelay, Chartres, le Mont-Saint-Michel.
Des grandes églises romanes ou gothiques du Moyen-Âge.
Ouais. Versailles, alors là, c'est la période moderne.
Louis XIV.
C'est la monarchie, Louis XIV, c'est l'architecture Louis XIVienne qui a marqué l'Europe. Et puis, quand même, le site préhistorique de la vallée de la Vézère, vous voyez.
Avec Lascaux. Donc, et les peintures rupestres de la préhistoire, oui.
Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est des premiers classements, vous voyez. Donc, il y a quand même une certaine logique, en définitive. Et tout ce qui concerne la sphère, je dirais, musulmane, est relativement peu représentée à cette époque. Hein. Et imaginons l'Égypte. L'Égypte, qui est un pays non aligné, qui n'est pas à l'est, qui n'est pas à l'ouest. Bon. Eh bien, le premier classement, la première inscription, parce qu'en fait, on dit inscription pour l'UNESCO, hein, date de 79, donc c'est très, très précoce. C'est certainement un effet d'Abou Simbel. Ben, figurez-vous que, et là, on était vraiment dans l'universalisme réel, puisque les trois premières inscriptions sont le Caire historique, c'est-à-dire le cœur musulman de la ville. Deuxièmement, l'Antiquité, Memphis et sa nécropole. Et troisièmement, le site paléo-chrétien. Oui, parce qu'il y a eu des chrétiens en Égypte.
Les Coptes.
Abou Mena, les Coptes. Mmh. Vous voyez, qui malheureusement est inscrit sur la liste des sites en péril, soit dit en passant, pour des raisons de nappe phréatique, de croissance urbaine, etc.
Donc là, il y avait aussi de la part de l'Égypte de l'époque une vision politique pour rassembler différentes parties de sa sphère culturelle et sociale. Et on voit bien avec vous, Robert Belot, que ce patrimoine, il n'a rien d'inoffensif, bien au contraire. Il faut prendre tout ça avec des pincettes. La restitution des œuvres d'art, notamment des œuvres d'art africains pillées pendant la colonisation, ben, c'est aussi un autre aspect du patrimoine à l'épreuve des conflits. On va en parler avec vous dans la seconde partie de Géopolitique. Nous prenons connaissance là tout de suite des dernières nouvelles du monde et nous revenons pour la seconde partie de l'émission dans une dizaine de minutes après le journal. À tout de suite.
Géopolitique.
Ludovic Duno.
C'est la deuxième partie de Géopolitique avec Nathalie Laporte à la réalisation. Aujourd'hui, le patrimoine culturel à l'épreuve des conflits. En 2003, le secrétaire général de l'UNESCO plaçait dans un discours le patrimoine comme un élément culturel essentiel d'une paix durable. Aujourd'hui, ce patrimoine culturel sert souvent de révélateur, de cible ou d'arme symbolique dans un conflit. Si longtemps l'UNESCO a prôné et continue à prôner le rapprochement des peuples grâce au patrimoine culturel, nous constatons que bien des hommes ont décidé de convoquer et d'utiliser le patrimoine au centre de leur division. Il est devenu un enjeu diplomatique majeur, utilisé, manipulé, parfois par la diplomatie, la politique, les mouvements associatifs ou citoyens, et il sert aussi d'ancrage ou de symbole pour de nombreuses revendications légitimes également. Pour nous aider à analyser et décrypter ce sujet, Robert Belot est avec nous. Il est historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, où il tient la chaire européenne EPOPA, acronyme de Europe, Politique et Patrimoine. Il y orchestre aussi deux masters dédiés au patrimoine culturel et par ailleurs, il a dirigé en 2017 un numéro de la revue canadienne Ethnologie intitulé « Géopolitique, conflits et patrimoine ». Robert Belot, le patrimoine entre dans les conflits quand il s'agit par exemple de faire valoir sa position dominante, quand il devient la valorisation du plus fort et entraîne l'oubli de l'histoire des plus faibles ou de ceux qui sont différents. Et donc le patrimoine ou sa négation ne sont-elles pas au service des idéologies très fortes et des affirmation identitaire extrême comme on peut le voir depuis une ou deux décennies déjà.
Oui, alors le patrimoine, c'est un peu comme l'histoire. On dit que l'histoire est le récit des vainqueurs. Eh bien, le patrimoine, en tant que choix, est souvent le fait des vainqueurs, de ceux qui veulent imposer leur point de vue, leur idéologie. Et le patrimoine est ontologiquement une ambiguïté, en fait. C'est-à-dire qu'il peut à la fois inclure, réconcilier, réunir, consoler même. En même temps, il peut exclure à partir du moment où on entre dans une logique que je dirais identitariste. C'est-à-dire que l'identité qui se replie sur elle-même, qui est foreclose sur elle-même, eh bien c'est une identité dangereuse. C'est une identité obsidionale qui peut provoquer le pire et c'est là où on utilise le patrimoine comme élément de légitimation d'une action d'exclusion, de guerre, ou de mépris d'une minorité, quelle qu'elle soit.
Mais ça peut aller très loin, l'exclusion des autres. Quand on voit que les talibans ont détruit les bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, là on est sur la négation totale de ce qu'a pu être une histoire.
Alors c'est effectivement les talibans, mais c'est aussi Daesh. Hein. On pourrait multiplier, hein. Ça date depuis bien avant Jésus-Christ. Effectivement, là c'est la négation de l'histoire, et c'est-à-dire le mythe de l'origine absolue. Toute idéologie qui se réclame de l'origine absolue est une idéologie potentiellement liberticide, culturicide et génocidaire. Il n'y a pas d'origine absolue. De même que nous ne sommes que des fétus de paille dans une évolution. Eh bien, l'homme, c'est ça, c'est une chaîne. Et le patrimoine, au bon sens du terme, c'est justement la prise de conscience de notre inscription dans une durée très longue. Il y a eu d'autres personnes avant nous, il y en aura après. Et comme le disait Bernard de Chartres, un théologien du XIIIe, nous ne sommes que des nains sur des épaules de géants. Le drame, c'est quand des hommes se prennent pour Dieu. Ils veulent réécrire l'histoire, ils veulent supprimer l'histoire. Mais l'histoire, c'est le Dieu qui, dans leur logique, qui l'a faite. Donc, c'est se tuer soi-même, en fait.
Robert Belot, cette antériorité absolue dont vous parlez, c'est ce que vous appelez, dans votre milieu de spécialiste du patrimoine culturel, le syndrome de Jérusalem ?
Oui, ça peut être ça, effectivement. Oui, ça prend diverses formes. Mais les facteurs d'exclusion sont souvent, je préciserai, je pense, d'ordre religieux. Et notamment, les trois religions monothéistes ont cette tendance iconoclastique, ce mythe négatif des pierres taillées qu'on trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Parce que ces trois religions ont la même source. Et il y a un rejet de la figuration, même du monument, en tant que source possible de paganisme, d'idolâtrie. Vous voyez ? Alors, c'est vrai que le christianisme a aménagé une espèce de compromis entre le rejet absolu de l'image qu'on trouve chez les juifs et chez les musulmans, et puis cette idée d'incarnation qui sauve un peu le christianisme du refus de l'image, du refus du monument en définitive. Mais trop souvent, le patrimoine est instrumentalisé comme dans une logique d'affirmation de son identité qui peut être justement belliciste, belliqueuse, et qui peut aller contre l'autre. Et c'est ce qu'on vous avait cité, effectivement, ce drame hein, de la récupération religieuse de Sainte-Sophie. Si on veut aller vraiment dans le sens de l'histoire, il faudrait que ce soit restitué aux chrétiens, puisque c'était l'Empire byzantin, les chrétiens d'Orient, qui ont créé cet édifice public à nul autre pareil.
Un statu quo avait été créé en faisant un musée, c'est-à-dire en laïcisant les lieux et en faisant un endroit neutre dédié à l'histoire au cours des siècles. Et ça vient d'être remis en cause par le président Erdogan.
Alors je trouve ça très triste. Alors on est justement dans cette logique d'instrumentalisation, de nationalisation d'un patrimoine qui appartient à tout le monde, qui appartient à l'Europe, qui appartient à la fois aux chrétiens, aux musulmans et au monde entier en définitive. Et je déplore un peu, je dois le dire, que l'UNESCO n'ait pas réagi de manière plus vive et a simplement évoqué le fait qu'il ne faudrait pas que cette récupération se traduise par des modifications bâtimentaires. Vous voyez, non, la question, elle est beaucoup plus importante. C'est la question de la valeur que nous attribuons à ce patrimoine mondial et donc, comme vous le disiez justement, universel. C'est son universalité qui a été détruite symboliquement d'une certaine manière.
Géopolitique, Ludovic Dunod.
Robert Belot, venons-en maintenant à un sujet conflictuel qui touche plusieurs pays d'Europe, ex-puissance coloniale, et les pays d'Afrique autour de la question de la restitution des œuvres d'art. Ce sujet sensible, qui va toucher des cordes très sensibles, témoigne d'un rapport de force que les peuples dominés veulent renverser ou du moins rééquilibrer, non ?
Oui, alors le prisme de lecture actuel, le plus médiatisé, vous avez raison, c'est la question coloniale. Et ça a été effectivement mis sur la scène internationale par le président Macron à Ouagadougou en 2017, qui, après avoir stigmatisé justement les crimes de la colonisation européenne, s'est déclaré en faveur de la restitution du patrimoine africain. Or, les restitutions, déjà, ont toujours existé depuis très longtemps. Elles dépassent la question coloniale et le rapport Nord-Sud. Par exemple, une question qui est toujours actuelle, les œuvres d'art spoliées par les nazis. Œuvres d'art juives particulières. Les archives françaises bloquées à Moscou depuis très longtemps. Archives françaises prises par les Allemands et prises par les Soviétiques. Prenez le cas des frises de Parthénon, réclamées par la Grèce à l'Angleterre depuis 1832 ou 34.
Oui, ces histoires de restitution, ce n'est vraiment pas nouveau.
C'est pas nouveau, effectivement. Mais ce que j'aimerais dire aussi, comme préalable, pour répondre pleinement à votre question, c'est que tout le patrimoine extra-européen qui se trouve en Europe n'est pas lié à un processus de vol, de privation, de spoliation ou de domination. Il y a eu un véritable intérêt pour les autres cultures qui étaient souvent considérées comme inférieures par les autres.
Rappelle par exemple Hélène Leloup, ex-Hélène Kammer, qui est une galériste spécialiste en art africain qui a beaucoup fréquenté l'Afrique dans la fin des années 50 et dans les années 60. Elle rappelle justement, avec tout le débat qui est né autour des restitutions d'œuvres d'art aux pays africains, qu'une partie des œuvres que nous avons dans le monde en dehors de l'Afrique ont été achetées légalement, vendues par des marchands d'art africains ou par des Africains. Ça n'a pas été soldé. Et qu'en plus, ça rejoint ce que vous nous disiez aussi tout à l'heure sur la domination, Robert Belot, que certains Africains se sont défaits de certains patrimoines parce qu'à l'époque, d'autres Africains luttaient et détruisaient ce patrimoine, notamment des patrimoines animistes quand d'autres idéologies sont venues, même après les indépendances, établir un certain pouvoir dans ces pays. Donc c'est un sujet très très complexe. La restitution d'œuvres d'art, il y a une partie légitime et on la comprend, il faut la soutenir, mais c'est plus complexe que ça et vous travaillez avec vos étudiants autour de cette question.
Oui, tout à fait, c'est très complexe. Quand Le Corbusier visite le musée du Trocadéro, qui était encore un musée anthropologique à l'époque, il est triste de voir si peu de monde s'intéresser justement aux œuvres de l'Afrique, vous voyez. Donc, effectivement, il faut recontextualiser ces histoires et résister à ce que je pourrais appeler, mais sans que ce soit péjoratif, bien entendu, à une forme de moralisme rétrospectif, imprécateur, vous voyez. Bien entendu, on comprend ce sentiment légitime qui sont à la base des revendications de la restitution. Parce que c'est une manière de se réconcilier avec son histoire, de s'inscrire dans un temps long, de réparer aussi, parce qu'il y a aussi cette idée de réparation, ce qui était perçu et qui parfois a été un déni ou une injustice, en fait, rétablir un certain équilibre.
Donc, par le patrimoine, on crée le débat. la revendication est légitime, mais ça permet d'imposer le débat par rapport à quelqu'un d'autre qui, pour l'instant, ne veut pas l'engager ou met un tabou dessus.
Oui, mais je pense pas que ce soit la meilleure manière de traiter des questions coloniales. Vous voyez, il y a d'autres manières de faire, à mon sens. Cela dit, vous savez que les groupes qui revendiquent la restitution ont été précédés de gens très célèbres. Et je pourrais citer Aimé Césaire ou Victor Hugo. Victor Hugo a lui aussi dénoncé ce qu'on a fait à la Chine, parce que vous savez que la Chine revendique beaucoup aussi. Il n'y a pas que l'Afrique. Hein. La Chine revendique beaucoup d'œuvres qui ont été carrément spoliées hein, par les Anglais et les Français. On est en 1860, je crois. Il dit, voilà, nous, Européens, nous sommes les civilisés. Et pour nous, les Chinois, ce sont les barbares. Et donc, on a récupéré leur œuvre sans leur demander leur avis. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie devant l'histoire. Il faudra qu'un jour la France, délivrée et nettoyée, renvoie ce butin à la Chine spoliée. Vous voyez ? Donc, il y a une vieille tradition de restitution. Donc, il y a une forme de légitimité, bien sûr, parce que tout n'a pas été prélevé de manière régulière, ça il faut le dire aussi, c'est très, très clair. Mais il me paraît important, tout en considérant légitime cette démarche, d'éviter de réintroduire les biens culturels dans ce qu'on dénonçait tout à l'heure, c'est-à-dire une logique nationaliste, identitariste, qui exclut les autres et qui irait à l'encontre de cette universalité qu'est pour moi en fait l'art et la culture. Et donc chacun va se retrancher dans ses lignes maginaux culturel, patrimonial, ce serait un danger. Parce que l'art est universel, on nous l'a suffisamment dit à juste titre, et c'est la leçon de l'après-Deuxième Guerre mondiale.
Bon, en tout cas, ce dossier des restitutions d'œuvres d'art vers l'Afrique qui occupe l'actualité depuis 2 ans avance, puisque mi-juillet, le gouvernement français a examiné le premier projet de loi permettant le transfert d'œuvres culturelles vers leur pays d'origine. Et ça concerne des œuvres pillées, des œuvres qu'on n'aurait pas dû garder, notamment les 26 objets pillés lors du sac du Palais des Rois d'Abomey au Bénin par les troupes coloniales françaises en 1892.
Vous écoutez Géopolitique.
Le sujet est vaste et complexe aujourd'hui. Terminons cette émission autour du patrimoine culturel à l'épreuve des conflits avec vous, Robert Belot, universitaire spécialiste du sujet. Face à de tels enjeux, donc impliquant le patrimoine culturel, de telles atteintes aussi, quelquefois, comme on l'a vu, sur quel cadre légal et international les victimes peuvent-elles s'appuyer, que ce soit des États, des communautés, des associations, des citoyens? Est-ce qu'il y a un cadre pour se protéger?
Alors, se protéger contre les spoliations, contre...
On a vu qu'il y avait tout type, il y a des destructions, des spoliations. Voilà. Il existe vraiment tout type d'atteinte au patrimoine aujourd'hui.
Alors, je dirais que la palette des outils qui permettent de lutter contre les destructions, contre les spoliations, ces palettes sont très larges. Ça peut être un avocat, ça peut être une association qui fait pression sur le gouvernement, mais si on dépasse le cadre des États, et les États font beaucoup, et moi je pense aussi que la diplomatie patrimoniale existe. Par exemple, le gouvernement français n'a pas attendu une motion de l'ONU pour rendre la Vénus Hottentote en 2002, par exemple, ou les têtes
à l'Afrique du Sud.
À l'Afrique du Sud,
ou à la Nouvelle-Zélande.
Nouvelle-Zélande. Ou en 2003, par exemple, le Louvre restitue à l'Égypte des fragments de fresques venant du site de Louxor. Bon, bref. Et puis, je pourrais vous donner la liste extrêmement longue des négociations de gré à gré entre gouvernements. Mais sortons du cadre national et on s'aperçoit que l'ONU peut aussi réagir en tant que telle. Notamment, le Conseil de sécurité en 2015, et suite à forcément aux attentats, aux horreurs qui se perpétrent au Moyen-Orient, le Conseil de sécurité, par exemple, a adopté une résolution qui appelle à protéger, à défendre le patrimoine culturel. Alors, contre les destructions, bien sûr, mais contre le pillage et le trafic. Parce que le trafic, on pourrait faire une émission spéciale là-dessus. Le trafic, il existe.
Et c'est le troisième trafic après la drogue et les armes.
Exactement, voilà. Et d'ailleurs, alors, au niveau de l'Union européenne, il y a un travail qui est fait pour justement encadrer juridiquement ce trafic. Interpol, à Lyon, travaille à la recherche de ces gens-là. Mais il y a aussi des sociétés privées qui prête main forte aux organismes internationaux.
Mais quand on regarde quand même les textes qui existent, souvent ce sont des textes et des conventions qui peuvent protéger le patrimoine en cas de conflit, mais de conflit tel qu'on le comprend dans le temps long de l'histoire, c'est-à-dire un conflit armé quand il y a une guerre. Quand on voit ce qui s'est passé en juillet 2012 à Tombouctou avec la destruction de 9 mausolées de saints et d'une partie de la mosquée par des djihadistes qui contrôlaient la ville, là, on n'était pas dans un conflit armé officiel. Donc les conventions ne pouvaient pas aller. Heureusement d'ailleurs que le tribunal pénal international a puni Ahmad El Mahdi justement, et que ça fait jurisprudence où pour la première fois quelqu'un était puni pour destruction de patrimoine classé, de patrimoine universel.
Oui, alors c'est la troisième instance qui peut agir, c'est la Cour pénale internationale qui a été créée assez récemment, en définitive, même si, je le signale en passant, tous les pays n'ont pas ratifié. Les États-Unis, à ma connaissance, n'ont toujours pas ratifié. Donc oui, ce jugement est très important, il était rendu en 2016, donc jugement historique, parce que forcément, un pays ne peut pas rendre justice quand il s'agit d'un cas de conflit très particulier, comme celui-ci. Eh bien, qui va juger? Eh bien, ça, c'est le rôle de la Cour pénale internationale. Elle a rempli sa mission puisqu'il a écopé d'une peine de 9 ans de prison quand même.
Et que là, en ce moment, depuis mi-juillet, il y a un autre procès qui est en cours au tribunal pénal international d'un djihadiste malien qui est lui aussi, parmi tous les chefs d'accusation, inculpé pour destruction de mausolée de Tombouctou. Donc finalement, petit à petit, on prend aussi conscience par la jurisprudence pénale de ces atteintes au patrimoine. Et comme vous le disiez, c'est aussi toute une diplomatie du patrimoine qui est en train de se mettre en œuvre de manière internationale.
Voilà, il y a quand même quelque chose qui évolue suite aux drames qui ont été vécus au début de ce troisième millénaire. Et je pense que c'est quand même rassurant pour la culture, le patrimoine et l'idée qu'on se fait de l'homme en définitive. Parce que derrière, il y a une vision humaniste de l'homme. Le paradoxe avec ces djihadistes, c'est que ils détruisaient leur propre histoire, puisque là, c'est des musulmans qui détruisaient des symboles musulmans. Donc là, ça relève peut-être aussi de la psychanalyse. Mais on pourrait ajouter aussi le fait que des États ont décidé, en dehors de l'ONU, de l'Europe, de se retrouver, notamment dans le cadre de la conférence internationale d'Abu Dhabi en 2016.
Entre autres à l'initiative de la France.
Exactement, François Hollande à l'époque, et donc le fait qu'il ait eu lieu à Abu Dhabi, ça va dans le sens justement de cette prise en compte universelle du patrimoine. Il n'y a pas un patrimoine européen ou moyen-oriental. Cette conférence est très importante, je pense. Elle dit bien que le patrimoine, c'est le miroir de notre humanité. Alors elle a créé un fonds de soutien. Un fonds de soutien, c'est-à-dire avec beaucoup d'argent, pour soutenir les protections, les réparations. Notamment, ça c'est concret, c'est pas simplement des motions, des résolutions, c'est très concret. Et puis aussi, cette conférence a créé un réseau de refuges, vous voyez. Quand les œuvres sont en danger, quand on peut les déplacer, c'est pas toujours le cas, eh bien, on crée un réseau de refuges pour les protéger. Et je pense à Belfort en particulier. Moi, j'avais été adjoint à la culture au patrimoine, nous avions créé justement un refuge pour les œuvres palestiniennes, les œuvres d'art palestiniennes qui étaient en danger, notamment dans la bande de Gaza, vous voyez. Donc ça, ce sont des initiatives extrêmement importantes qui vont pas changer, bien entendu, le cœur des hommes et les instincts de destruction des uns et des autres. Mais néanmoins, on progresse dans la voie du respect du patrimoine comme enjeu de notre humanité.
Les enjeux géopolitiques du patrimoine culturel, c'est sûr, il faudra qu'on y revienne dans cette émission. Merci Robert Belot de nous avoir éclairé aujourd'hui sur un sujet complexe. De toute façon, la géopolitique, c'est complexe et cela manie des contradictions et des ambiguïtés. Et avec le patrimoine aujourd'hui, on l'a bien compris qu'on était vraiment au cœur du sujet.
Merci.
Si vous avez été intéressé par ce sujet aujourd'hui, vous les auditeurs, lisez les différents articles du numéro de la revue canadienne Ethnologie.
Accessible sur le net.
Exactement, c'est ce que j'allais dire, Robert Belot. La revue s'appelle Géopolitique, conflits et patrimoine, et c'est un ouvrage que vous avez dirigé et coordonné et qui est, comme vous le disiez, accessible librement sur le net. On dit aussi merci à France Bleu Belfort de nous avoir aidé à produire cette émission et à Nathalie Rotaillot qui était à la technique de votre côté dans l'Est de la France. Avec moi aujourd'hui, j'avais Nathalie Laporte à Paris. N'hésitez pas à vous abonner à Géopolitique par l'intermédiaire de votre plateforme préférée de téléchargement de podcast. Comme cela, vous nous retrouverez à l'heure qui sera la vôtre. Nous, on se retrouve sur cette antenne à la même heure la semaine prochaine. Au revoir à tous.